Alors, chers amis, nous continuons aujourd'hui le premier article du Credo avec ce premier enseignement. Et nous allons reprendre ce que nous disions de la toute-puissance de Dieu. C'est important, évidemment, parce que cela nous permet d'accueillir favorablement ce qui nous arrive à chacun, que nous le jugions bon ou mauvais. Et puis, cela aussi nous guérit de la tentation des miracles. Jette-toi et les anges te porteront. Cette tentation qui consiste à tenter Dieu d'exercer sa toute-puissance et du coup de justifier par là nos faiblesses, nos refus de nous convertir. Et ça, bien sûr, on le retrouve dans l'expérience de Jésus, ses propres tentations décrites par saint Matthieu au chapitre 4 et au verset 5 et 7. Vous pourrez y retourner. Alors, donc, dans un premier temps, voilà, creusons ce mystère, continuons et terminons de creuser ce mystère de Dieu tout-puissant tel que nous le proclamons dans le Credo. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Alors, la toute-puissance de Dieu, qui est le seul attribut qui est donné à Dieu dans le Credo, elle est universelle, cette puissance. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé. Et il régit tout. Et il peut tout. Voilà. Il y a cette dimension de la plénitude et la dimension créatrice de Dieu qui est le signe de sa puissance, de cette toute-puissance. Mais c'est aussi, ne l'oublions pas, une puissance qui est aussi aimante, qui n'est pas autre chose que celle de l'amour. Dieu ne crée pas autrement que par amour. Hein. Et Dieu est aussi notre Père. La puissance de Dieu est liée à cette dimension créatrice de Dieu qui est Père. Cette puissance, elle est aussi mystérieuse. Pourquoi? Parce que seule la foi peut la discerner lorsqu'elle se déploie dans la faiblesse, cette puissance. Et nous ne pouvons discerner et vivre de la puissance de l'amour de Dieu que dans notre faiblesse. Grand mystère. La puissance de Dieu ne se déploie pas, pour le dire encore autrement, malgré ma faiblesse, à côté de ma faiblesse, en dehors de ma faiblesse ou au-dessus, non. Elle se déploie au cœur de ma faiblesse, dans ma faiblesse, acceptée par amour, c'est-à-dire avec le Seigneur, hein, tel que saint Paul le décrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9. Et vous pourrez le retrouver. Ensuite, bien sûr, si Dieu est tout-puissant au ciel et sur la terre, c'est qu'il les a faits, évidemment. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange à la Vierge Marie à l'Annonciation, tel que nous pouvons le retrouver dans l'Évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 37. La puissance de Dieu manifeste des possibles infinis. Et pour le dire encore autrement, cette toute puissance de Dieu ne trouve de limite que dans nos cœurs. C'est nous qui mettons une limite à la puissance de Dieu. C'est nous qui, par manque de foi, par manque de confiance au Seigneur, mettons des limites à la puissance de Dieu dans nos cœurs et dans le cœur de ceux que nous sommes, qui nous sont confiés et pour qui nous avons mission de prier, d'intercéder auprès de Dieu. Pour leur propre chemin de disciples à la suite du Seigneur.
Alors, nous avons à faire une véritable conversion dans notre cœur par rapport à notre compréhension de la puissance, parce que le Seigneur ne manifeste pas sa puissance comme nous aimerions qu'il la manifeste. Nous voudrions que le Seigneur fasse que tout se passe comme nous le voulons, alors que la puissance de Dieu, comme le dit saint Paul, se manifeste dans la faiblesse pour que nous puissions rentrer dans cette volonté de Dieu et quitter notre volonté propre, qui est un obstacle à laisser Dieu agir en nous.
Voilà. Et donc, pour aller dans le même sens que ce que dit Marie-Christine, dans le psaume 115, Et au verset 3, nous entendons que notre Dieu est dans les cieux, tout ce qu'il veut, il le fait. Mais tout ce que veut Dieu, il ne peut le faire que parce que nous choisissons en effet d'adhérer à ce que Dieu veut. Même et surtout lorsque nous nous rendons compte que cette volonté n'est pas ressemblante à la nôtre et même si elle nous dérange parfois. Il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous semblent dures dans ce que Dieu veut pour nous. Et donc, nous refusons trop souvent d'accomplir ce que Dieu veut et de vivre de la puissance de Dieu dans nos vies parce que nous limitons la puissance de Dieu par le manque d'adhésion de notre volonté, de ma volonté à la volonté de Dieu. Alors Dieu manifeste donc sa toute-puissance aussi en nous convertissant de nos péchés et en nous rétablissant par là, dans son amitié, par sa grâce, hein, la grâce qui n'est pas autre chose que la gratuité de son amour. Hein. L'origine de la grâce, c'est bien la gratuité de quoi ? De l'amour de Dieu qui nous délivre et qui nous délivre de nos péchés pour que nous puissions nous retourner vers le Seigneur et vivre selon sa volonté. Et dans l'oraison d'une prière dominicale, c'est le 26e dimanche du temps ordinaire, mais voilà, c'est pour ceux qui voudraient le retrouver, il nous est dit ceci, « Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. » Voilà. Dieu donne la preuve suprême de sa puissance lorsqu'il patiente et qu'il prend pitié. Et la miséricorde de Dieu, la capacité qu'il a de nous délivrer du mal, est le signe suprême de la puissance de l'amour de Dieu. Tu as pitié de tous, car tu peux tout, dit l'auteur du livre de la Sagesse au chapitre 11. Alors Dieu est donc ce Père tout-puissant, et sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. Dieu est puissant parce qu'il est Père et Créateur dans sa paternité. Et puis Dieu est Père parce qu'il est puissant. Vous voyez, la puissance de Dieu me révèle la paternité et la paternité est le signe de sa puissance. Vous voyez, les deux réalités de ce qu'est Dieu en lui-même, dans tout son être, s'éclairent mutuellement. Et elles se manifestent, encore une fois, essentiellement par cette miséricorde sans limite, infinie. Il n'y a aucune limite dans le cœur de Dieu pour pardonner des péchés, si ce n'est les limites, encore une fois, que nous posons nous-mêmes, ce refus. Hein, qu'on appellera aussi, que Dieu appellera lui-même le péché contre l'Esprit Saint, qui est notre refus de demander pardon. Voilà. Et parfois aussi de reconnaître notre péché. Alors reconnaissons, bien sûr, voilà, que bien souvent, eh bien, nous voudrions que la toute-puissance de Dieu fasse que tout se passe selon nos désirs. Encore une fois, plutôt que le désir de Dieu. Et là, la conversion, elle passe par cet accueil progressif et tout au long de la vie, c'est une conversion qui est de tous les jours, car tous les jours, nous pouvons nous rendre compte de la difficulté d'accueillir, de reconnaître que ce que Dieu veut est souvent meilleur que ce que moi, je peux me faire comme idée du bonheur.
Toujours. Voilà. Pas souvent, toujours.
Ce que pratiquement toujours, non pas toujours. Parfois, on peut accueillir, voilà.
On peut, oui, non, mais je veux dire, tu dis.
Parfois, ce que je veux ne peut pas être meilleur
que ce que Dieu veut.
Bah si, pas meilleur, mais ça peut être égal. Ça peut être égal mais à la volonté.
Pas meilleur.
Non, pas meilleur, en effet.
Parce que voilà. Dieu. On est d'accord. Étant tout puissant et parfait, c'est-à-dire qu'il y a cette perfection chez Dieu. Parce qu'on imagine toujours la puissance comme un guerrier qui est très puissant, mais cette puissance de Dieu, elle se manifeste, comme c'était dit là tout à l'heure, pas par cette tendresse infinie, par cette miséricorde. Et nous, ça nous dépasse complètement, parce que nous avons toujours envie de gérer et nous avons envie de diriger les choses comme nous voulons qu'elles soient, et que nous avons une peine folle à rentrer dans cette miséricorde infinie de Dieu et dans cette patience.
Alors, comment croire que le Père a pu nous créer, le Fils nous racheter, l'Esprit Saint nous sanctifier, si nous ne croyons pas que l'amour de Dieu est tout-puissant? Et donc, vous voyez, cette conviction, cette adhésion à cet article de la foi et du credo est essentielle, vous voyez, parce qu'elle affermit notre foi et notre espérance. Plus je décide librement d'adhérer à cette réalité de la puissance de Dieu, plus ce choix d'adhérer va faire grandir notre confiance à Dieu et notre espérance de vivre de sa vie, de cette victoire de sa vie sur la mort, de cette victoire de l'amour sur le mal. Et la foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, elle peut être mise à l'épreuve par l'expérience du mal et de la souffrance, évidemment. Et parfois, Dieu peut sembler absent et même incapable d'empêcher le mal. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons éprouver, vous voyez, comme ressenti, qui ne correspond pas à la réalité, mais que nous pouvons éprouver et qui peut être pour nous source de chute dans notre relation à Dieu et dans notre capacité de suivre Dieu, évidemment. Alors saint Thomas d'Aquin nous dit ceci: Dieu dispose les choses nécessaires aux hommes par sa providence pour de justes motifs. Ainsi, il afflige des bons et laisse des méchants jouir de sa prospérité. Vous voyez, voilà, le grand mystère, c'est que Dieu va même jusqu'à affliger les bons. Alors, ce n'est pas Dieu qui va vouloir le mal. Il faut toujours comprendre le sens de cette parole, hein. C'est vraiment Dieu, voilà, qui va, dans sa providence, permettre de rabaisser l'orgueil de ceux qui veulent le suivre pour les faire croître dans l'amour. Vous voyez, quand on parle de Dieu qui afflige des bons, c'est pour les rendre meilleurs. Dieu permet que Job soit mystérieusement touché jusque dans sa chair en profondeur pour le faire grandir dans l'amour et dans rien d'autre que l'amour.
C'est-à-dire que le seul moyen si le Seigneur nous donnait toujours tout ce qu'on voulait, ce serait évident. On n'aurait pas besoin de la foi, ce serait évident. On se dit, le Seigneur fait tout ce que je veux, alors c'est parfait. Mais pour que nous ayons une foi vraie, hein, authentique, eh bien, il est important que les choses ne se passent pas comme nous voudrions qu'elles se passent. Hein, parce que à ce moment-là, c'est un amour vrai pour le Seigneur. On n'aime pas un enfant, on ne l'aime pas que quand il est bon, on l'aime toujours. Et le Seigneur, nous avons à aimer le Seigneur quand il nous donne aussi des choses que nous ne voudrions pas qu'il nous donne. Quand nous sommes éprouvés, eh bien, c'est une marque toujours de l'amour du Seigneur. Disons-nous que lorsque nous sommes éprouvés, c'est le Seigneur qui nous appelle à la foi, à croire que lui, il est plus puissant et son amour se manifeste aussi par... Excusez-moi, je peux plus parler.
Par cette puissance. Alors, je parlais de Job, voyez, et au chapitre 2, la femme de Job lui dit « Pourquoi persévérer dans ton intégrité ? Maudis donc Dieu et meurs !» lui dit sa propre femme. Et Job lui répondit « Tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur ?» Voyez, accepter même le malheur comme un don de Dieu. Non pas parce que de manière masochiste nous aimons le mal, Job ou nous-mêmes, non, parce que nous voyons même dans les épreuves, dans le mal que nous subissons, un chemin de croissance dans l'amour, un chemin de conversion de nos cœurs. Si ça marche.
Parce que quand il y a eu un appel, en général, ça coupe.
C'est non, je dis que non, ça va. Voilà. Et donc, dans le livre aussi aux Hébreux, il est dit ceci, « Le Seigneur châtie et donc corrige celui qu'il aime. » Et Job, je reprends encore, « Plût à Dieu qu'il te révèle les secrets de sa sagesse et la multiplicité de ses desseins. » Que Dieu révèle, voyez, les secrets de sa sagesse qui sont à découvrir même dans l'expérience de ces épreuves, de ce mal que nous pouvons subir. Et en sachant qu'encore une fois, les sources les plus grandes de douleur ne sont pas toujours et souvent pas tant les épreuves que nous subissons de la part de personnes extérieures à nous-mêmes que nos propres péchés. Nos propres péchés sont souvent les sources des plus grandes douleurs. Voilà. Mais ça prend du temps, croyez-le, pour le découvrir, pour accepter de reconnaître que nos péchés sont à l'origine des souffrances souvent les plus grandes dans nos propres vies. Voilà. Alors, nous allons aussi découvrir, toujours en lien avec cette puissance, que Dieu le Père a révélé cette puissance de la façon la plus mystérieuse dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de Jésus, son Fils, par lesquels il a vaincu le mal. Ainsi, Jésus, lorsqu'il est crucifié, est, et là je cite saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, « puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Fin de citation. Voyez. Et donc, seule la foi, voyez, cette adhésion du cœur et de l'intelligence, voyez, seule la foi peut adhérer à un tel chemin mystérieux de la puissance de Dieu. Il faut pour là sortir d'un chemin uniquement logique. La logique de Dieu est plus large que notre logique humaine et qui est un peu étroite. Notre intelligence, notre logique intelligence est étroite et Dieu vient élargir le champ de notre intelligence et de notre cœur pour adhérer progressivement et tout au long de notre vie à la réalité de ce mystère.
Oui, je voulais juste rajouter une petite anecdote. Toute la force du Christ, toute sa puissance se manifeste dans le fait qu'il soit resté sur la croix. Et nous avons toujours la tentation de descendre de la croix. Et si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Eh bien non, c'est parce qu'il est fils de Dieu que le Christ peut rester sur la croix. Et nous, c'est parce que nous désirons, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous le manifestons si nous restons droit, debout, avec la souffrance, mais debout dans les épreuves. C'est ainsi qu'on manifeste notre foi. Voilà,
vas-y. Et donc, vous voyez, cette conviction profonde, voilà, que rien n'est impossible à Dieu. Cette conviction profonde que rien n'est impossible à Dieu, eh bien, va affermir notre foi et notre espérance. Ainsi, dès que notre raison, voyez, aura seulement l'idée de la toute-puissance divine, eh bien, elle va admettre facilement et sans hésitation aucune les choses les plus grandes, les plus incompréhensibles et les plus élevées au-dessus des lois ordinaires de la nature. Vous voyez, il s'agit, pour le dire autrement, ici de lois surnaturelles, au-delà de la nature. Dieu vient élever notre nature humaine à l'échelle de sa nature divine. Il vient nous diviniser, voyez, la foi, l'adhésion de mon intelligence et de ma volonté à ce que Dieu me révèle de sa puissance qui se déploie dans la faiblesse n'est possible que dans cette adhésion à ce que Dieu vient réaliser en nous, de nous rendre semblables à lui, d'élever notre pauvre nature mortelle à la hauteur de sa nature divine. Voilà. Alors, après avoir traité de cette dimension de Dieu tout-puissant, nous allons maintenant creuser davantage la dimension de Dieu créateur. Les hommes de tous les temps se sont demandé d'où je viens, où vais-je, quelle est mon origine, quelle est ma fin, qui sont des questions évidemment fondamentales pour diriger notre vie. Et seule la foi donne des réponses satisfaisantes à ces questions.
Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que ces questions, les hommes ne se les posent plus.
Beaucoup d'hommes,
beaucoup moins d'hommes, avec le matérialisme dans lequel nous vivons, eh bien, malheureusement, beaucoup de personnes ne se posent plus ces questions-là. Et se poser ces questions-là, c'est une manière de, de pouvoir entrer dans la foi.
Voilà. Pour dire ce que disait Marie-Christine, peut-être un peu autrement, c'est aussi, me semble-t-il, le fait que moi, j'ai la certitude que ces questions se posent de toute manière à toute personne, mais que la manière de vivre cet individualisme, cet esprit de consommation vient créer comme un voile, un écran qui empêche de reconnaître la profondeur de ces questions. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous les posons, et de manière heureuse, même si y répondre n'est pas toujours facile, alors creusons ce mystère et qui est lié à notre origine. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, nous dit l'auteur du livre de la Genèse, premier chapitre, premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu seul a créé l'univers. Il n'y a pas des entités diverses et variées qui auraient participé à cette création, non. Dieu est unique créateur. De cet univers, et librement, directement, sans aucune aide. Voyez, et bien que l'œuvre de la création soit particulièrement attribuée au Père, voyez, et bien c'est également une vérité de foi que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont l'unique et indivisible principe de la création. Voyez, il y a des choses qui semblent contradictoires. D'un côté, on dit Dieu, le Père, est à l'origine de la création, et puis ensuite on va dire qu'il y a cette création qui est liée à ce Dieu indivisible et trinitaire, que sont le Père et le Fils et l'Esprit Saint unis, mais ça n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe, hein, c'est le mystère de ce Dieu trine et unique, parce que Dieu d'amour. Jean, Saint Jean, au chapitre 1 de son évangile, nous dit lui-même « Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. » Et là, ici, il parle du Verbe, donc il parle du Fils. Et donc là, ici, ça nous dit aussi combien le Fils a participé à la création. Hein? La création est le début de l'histoire du salut, et elle culmine en Jésus. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons bien que Dieu crée par la parole, que la lumière soit. Et comme la parole ou le Verbe de Dieu s'incarne dans la personne de Jésus, c'est bien en son Fils que le Père crée. Et puis, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et c'est là où nous voyons cette participation de l'Esprit Saint à la création.
Oui, parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui un tel est un créateur. Mais Dieu, lui, il est fondamentalement le seul créateur parce qu'il crée de rien. Hein? C'est ça qui est important. Nous, quand nous créons avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Nous créons avec des matériaux qui existent déjà ou avec des idées qui ont déjà été données par d'autres et ainsi de suite. Mais en fait, Dieu seul est fondamentalement créateur.
Alors toujours en lien, pour reprendre et creuser un tout petit peu plus la part de la dans la création du Fils. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Vous voyez, la dimension spécifique, la mission spécifique du Fils dans la création, elle est liée à cette création nouvelle, à cette recréation de Dieu par son Fils Jésus le Christ. Et saint Paul l'a bien compris, qui dans la lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 18 à 23, mais bon, c'était juste une partie, nous dit ceci, je le cite. « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Fin de citation. La gloire qui se révèle en nous par le mystère de cette recréation et par l'accueil de la victoire de la résurrection dans nos vies, hein, qui se fait de manière réelle, même si elle est incomplète sur cette terre, durant notre passage sur cette terre, ce temps de pèlerinage sur cette terre, et qui va s'accomplir dans la plénitude au ciel. Voyez ?
Alors je me posais juste une petite question, est-ce que nous vivons seulement pour cette terre-ci, ou est-ce que nous sommes toujours tendus vers cette vie éternelle à laquelle le Seigneur nous appelle, qui est déjà commencée, mais qui sera dans sa plénitude une fois que nous aurons quitté cette terre.
Pour le dire autrement, beaucoup d'épreuves dans nos vies sont liées au fait qu'on voit les choses uniquement dans le présent, dans l'immédiat. Et Dieu, même si c'est important de vivre dans le présent, parce que c'est Dieu, Dieu se donne dans le présent, il nous faut vivre aussi dans cette tension avec l'avenir, avec justement cette fin ultime qui est la nôtre, ce ciel vers lequel nous tendons, et que toute notre vie est une préparation à cette vie céleste, ultime, cette communion de vie et d'amour avec Dieu au ciel.
Oui, ça doit être ce qui tend toute notre vie, devrait être vraiment, toute notre vie doit être orientée vers ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire de vivre dans sa gloire, de partager sa gloire, d'être avec lui qui est la plus grande des joies. Et peut-être que nous avons une conversion forte à faire, mais je voulais vous inviter aussi à vous mettre en vérité par rapport à ce que vous êtes, à ce que nous sommes, à ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de capacité d'avancer lorsque je dis « ben oui, Seigneur, regarde, voilà, moi je vis finalement beaucoup pour cette terre-ci. Donne-moi un regard vers cette vie éternelle à laquelle tu m'appelles. » C'est important de reconnaître où nous en sommes pour que le Seigneur puisse nous porter à plus loin. Sinon, nous ne sommes pas en vérité. Et si nous ne sommes pas en vérité, nous sommes une projection. Mais une projection de quelque chose, on ne peut pas le tout. Ça n'existe pas, c'est virtuel. Et le Seigneur veut agir dans le concret en nous. Ça va mieux, je trouve ça. Hein.
Alors Dieu qui a créé l'univers, là ici quand on parle de Dieu, on parle davantage du Père, bien sûr, il le maintient dans l'existence par son Verbe. Vous voyez, ce que Dieu crée est maintenu dans l'existence par son Verbe. Voilà. Ce Fils, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je le cite, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante. Vous voyez, l'univers, et donc tout ce qui est créé est maintenu dans l'existence, vous voyez, par la parole puissante du Fils. Vous voyez, et une parole d'amour, bien sûr, une parole d'amour qui sauve de la mort. Ce qui est maintenu dans l'existence, c'est-à-dire qui est préservé de la dégradation, de la mort, et surtout de la mort intérieure, et donc, et qui n'est pas autre chose que la conséquence de nos péchés, voyez, de notre complicité avec le mal. Hein. Donc nous, et c'est tout ça pour dire encore la même chose, cette participation à la création du Fils, elle est essentiellement dans la recréation, voyez, de cette capacité que Dieu a de nous faire revivre. Voyez, la création, c'est la vie, pour le dire autrement. Et nous sommes parfois des vivants qui sont nous sommes parfois des morts vivants, comme on dit. C'est-à-dire que nous vivons nos vies avec une complicité telle que nous ne sommes pas vraiment vivants. Nous sommes des vivants en sursis, ou momifiés. Mais nous manquons d'accueillir la puissance de vie de Dieu dans nos vies par cette complicité avec le mal qui nous apparaît parfois plus désirable que le bien que Dieu nous présente. Voilà. Et puis donc Dieu, il maintient dans l'existence tout l'univers par son Verbe et par l'Esprit, évidemment, l'Esprit créateur qui donne la vie. Donc, l'Esprit créateur qui donne la vie, voilà. Et là, on voit bien que ce que donne le Fils n'est pas donné autrement qu'avec aussi le... C'est pas d'un côté le Fils et de l'autre côté l'Esprit Saint. C'est ce que le Père maintient dans l'existence par le Fils, il le fait aussi par l'Esprit Saint. C'est l'action commune des trois personnes divines. Vous voyez ? Et donc il faut bien voir cette unité de l'action de Dieu unique. Nous ne sommes pas des trithéistes. Si chacune des personnes divines a une part personnelle dans son action de création ou de recréation, ce n'est pas autre chose que l'œuvre du Dieu unique. Nous sommes bien des monothéistes. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu.
Donc même si chaque personne de la Trinité a son action propre vis-à-vis de nous, eh bien, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Ça, c'est extrêmement important, hein, de voir que l'Esprit nous manifeste certaines choses et fait certaines choses en nous. Le Christ, d'autres choses, il nous sauve. Et le Père, il est créateur, mais créateur par son Fils. Donc les trois personnes sont toujours comme imbriquées, même si elles ont une certaine spécificité.
Alors, autre point important au sujet de Dieu créateur, c'est que aucune créature, Marie-Christine en avait parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais on va un peu approfondir cette question, aucune créature n'a le pouvoir infini qui est nécessaire pour créer, au sens propre du mot, quoi que ce soit. Voyez, pour créer quelque chose à partir de rien, pour le dire encore autrement. Voyez, de produire ou de donner l'être à ce qui ne l'a pas ou ce qui ne l'avait pas. Et donc Dieu, lui, ne crée pas à partir de quelque chose. Il crée à partir de rien. Le terme qui est utilisé habituellement dans le vocabulaire de l'Église, c'est il crée ex nihilo. Hein, c'est du latin.
Nihil, c'est bien, ça veut dire rien.
Rien. Voilà. À partir de rien. Voilà, nous créons toujours à partir de quelque chose. À partir de la terre, à partir d'une toile, à partir du marbre, à partir de matériaux qui sont déjà existants. Voilà. Donc, notre manière de participer à la création, elle fait de nous des êtres qui sont radicalement différents de Dieu, ici. Et nous n'avons pas à nous désoler de ne pas être des créateurs. Mais bien sûr, nous allons le voir d'achever, voyez, cette création.
C'est un appel, le fait de ne pas être créateur nous-mêmes, ça nous appelle à être dans l'humilité, hein, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans la conversion sans humilité. L'humilité, c'est la base de tout, hein, et le fait que nous ne soyons pas créateurs montre que nous sommes des créatures. Hein? Et donc, c'est en tant que créature que le Seigneur nous appelle à partager, hein, lorsque nous le rencontrerons, sa divinité.
Et donc, dans tout ce que Dieu crée, on peut découvrir un état de cheminement, voyez, vers une perfection ultime, encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée, à cette création. Pour dire la même chose autrement, c'est vraiment cette dimension justement de participation, et surtout pour ce qui touche aux hommes que nous sommes. Ce que Dieu a créé est appelé à une perfection. Ça, c'est vrai aussi de l'extérieur, de ce que Dieu a créé à l'extérieur, dans le monde, que ce soit dans la nature, mais c'est surtout vrai pour chacun de nous. Ce que je suis, tel que j'ai été créé à ma naissance, est appelé à connaître une perfection, c'est-à-dire une progression positive, heureuse, sans fin.
Voyez ? Dans l'amour.
Dans l'amour. Voilà. Et donc, il y a dans la manière même dont Dieu a créé les êtres humains que nous sommes, une source d'espérance folle, parce que nous sommes appelés et promis à une progression sans fin dans l'amour. Voilà. Dieu veut cela pour nous. Il nous a créés pour croître sans arrêt dans l'amour. Comment, voyez, ne pas trouver là une source d'espérance, voyez, qui nous permet d'éviter de sombrer dans le découragement et dans le désespoir face aux épreuves de la vie. Et donc Dieu, pour dire encore la même chose autrement, a créé le monde pour manifester et pour communiquer sa gloire, sa propre gloire. Dieu n'est pas jaloux de la gloire qu'il vit en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Il veut la partager, la communiquer. Il veut que nous puissions, voyez, la vivre avec lui. Hein, que ces créatures aient part à sa vérité, à sa bonté, à sa beauté. Et voilà la gloire pour laquelle Dieu a créé tous les hommes. Et donc, vous voyez, dans sa divine providence, hein, qui est un terme important de relever en lien avec la création, eh bien, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures jusqu'à leur fin ultime. Voyez, dans la divine providence, ce sont les dispositions, voyez, par lesquelles Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures vers leur fin ultime. Voyez, Dieu ne fait pas, pour le dire encore autrement, que de créer les hommes et puis ensuite il les laisse se débrouiller tout seuls. Non, Dieu accompagne, il nous conduit. Il est vraiment ce père, ce berger, voyez, qui nous prend par la main et qui nous conduit vers les verts pâturages, sur le chemin, pour éviter de tomber dans les ravins, pour reprendre les images du psaume 22. Voyez. Et donc, nous n'avons pas à avoir peur dans notre vie. Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas, pour le dire encore autrement. Voyez. Et Jésus, le Christ, nous invite à l'abandon filial à cette providence de notre Père céleste. Hein, on peut le retrouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, ça. Et puis saint Pierre va le redire aussi. Et lorsqu'il dit, je le cite, « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, le Christ, bien sûr, car il prend soin de vous. » Fin de citation. C'est la première lettre de Pierre au chapitre 5. On peut le retrouver aussi, autrement dit, dans le psaume 55.
Ce que je voulais dire, c'est que très souvent, le fait de s'inquiéter est la marque d'un manque de foi, qui est une certaine forme d'inquiétude. Je suis inquiète pour une petite chose. Mais lorsque nous avons des grandes inquiétudes, c'est toujours révélateur d'un manque de foi chez nous. Parce que Dieu est là, Dieu est tout-puissant, Dieu est mon Père, Dieu veille. Et il fera que tous les maux qui m'arrivent vont se transformer en bien. Hein, et nous voulons juger toujours avec nos petits yeux, notre petitesse, hein, et nous, vous voyez, nous ne sommes pas capables de rentrer dans cette foi absolue. Puisque Dieu est mon Père, je n'ai à être inquiète de rien. Ma seule inquiétude doit être d'être conforme à sa volonté, d'agir conformément à sa volonté. Ça devrait être la seule inquiétude de ma vie, de la vie de chacun, de chaque chrétien. Est-ce que je suis, ma vie est vraiment comme le Seigneur veut qu'elle soit? Est-ce que j'aime comme le Seigneur veut que j'aime? Est-ce que je m'ouvre aux autres comme le Seigneur voudrait que je m'ouvre aux autres, etc. Et donc, voilà, je crois que c'est vraiment important pour nous de nous laisser éclairer parce que le Seigneur peut nous manifester, parce que c'est toujours un don de l'Esprit Saint de voir son péché, de voir ses erreurs, de voir ses fautes. C'est un don de l'Esprit Saint pour que nous puissions nous en corriger. Si nous ne les voyons pas, nous ne pourrons pas nous en corriger. Donc, je vous invite vraiment chacun de nous, hein, moi compris, le Père Luc aussi, d'accepter de voir ce qui cloche chez nous, ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous faire rentrer dans sa véritable volonté.
Et pour dire, voilà, pour creuser encore un petit peu ce que dit Marie-Christine, mais et en lien avec la dimension de la création, la providence de Dieu, elle agit, elle ne peut pas agir autrement que par nos actions. Hein. Aux êtres humains, Dieu donne de coopérer librement à son dessein et à son désir de perfectionnement, de parfaire ce que nous sommes déjà aujourd'hui. Dieu n'agit pas de manière magique, pour dire encore les choses autrement. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas « Ah, c'est bon, je suis baptisé, je crois en Dieu, tout va bien pour moi ». Non. Je vais pouvoir croître dans l'amour que si je prends à cœur d'agir moi-même selon ce que Dieu me révèle et qu'il m'appelle à faire comme changement, comme conversion dans ma propre vie.
Voilà, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font ma volonté, qui seront sauvés. Hein. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur, et peut-être qu'on a toujours tendance à se dire, mais moi je prie, je vais à la messe, alors c'est bon. Non, est-ce que je vis dans la volonté de Dieu? C'est la question que vraiment nous avons à nous poser.
Alors, on en a déjà parlé un peu, mais on va le creuser un peu davantage maintenant aussi. Dans l'ordre de la création et la recréation se pose la question du mal. Alors, on parle en fait de la permission divine du mal physique. Vous voyez ? La permission divine du mal physique et du mal moral, elle est un mystère que Dieu éclaire par Jésus, par son Fils, Jésus-Christ. Comment ? Essentiellement par sa mort et sa résurrection, qui sont pour lui l'occasion de vaincre le mal. Vous voyez ? Nous ne pouvons pas aborder cette question du mal physique ou du mal moral autrement que par l'expérience que Jésus en fait. Une expérience dont il sort victorieux. Voyez ? Voilà. Sinon, appréhender ce mystère du mal autrement qu'à partir de l'expérience de Jésus ne nous conduira nulle part ailleurs que dans des impasses, dans des révoltes, dans des colères. Voyez ?
Oui, je voulais juste dire que le mal existe par notre liberté. Hein ? C'est parce que Dieu, on ne peut pas aimer quelqu'un sans le laisser libre. Eh bien, Dieu qui nous aime nous laisse libre. Et comme l'homme se sent libre, il a la liberté de choisir entre le bien et le mal. Mais quand l'homme choisit le mal, hein, Dieu, il y a toujours un moment où il lui donne des ponts pour pouvoir retourner dans la volonté de Dieu.
Alors la foi nous donne, vous voyez, la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal. Et si Dieu permet le mal, c'est parce qu'il a la capacité, dans la puissance de son amour, de faire sortir le bien du mal, par des voies que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. Ça nous échappe, voyez. Mais ça, c'est l'action de Dieu. Ne nous trompons pas et ne nous laissons pas tromper en pensant que puisque Dieu peut faire sortir le bien du mal, alors moi, je pourrais viser un bien à partir d'un chemin qui serait mauvais. Non. La fin ne justifie jamais les moyens et donc je ne peux jamais chercher à envisager un bien avec un moyen, donc viser une fin bonne, avec un moyen qui soit mauvais. Ça, c'est pas possible. Mais il faut pas confondre le fait qu'une fois qu'un mal a été fait, m'a été fait à moi, ou que moi-même j'ai fait le mal, et Dieu puisse, lui, dans sa puissance, en faire sortir quelque chose de bien. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes appelés à avoir un cœur droit et à chercher le bien par des moyens qui sont bons, jamais par un moyen mauvais. Je ne peux pas, par exemple, éviter voyez, une souffrance, la souffrance d'être rejeté par mon voisin ou ma voisine ou par quelqu'un dans ma famille, en cachant quelque chose qui est dû à cette personne. Et je ne peux pas viser un bien, éviter une souffrance d'être rejeté par quelqu'un par le biais d'un mensonge. Vous voyez ? Je ne peux pas justifier un mensonge, vous voyez, pour éviter le mal, ou même pour éviter de blesser quelqu'un. Et non, si la personne doit être peinée parce qu'elle se rend compte que je n'ai pas été fidèle à ce que je lui avais promis de faire pour lui ou pour elle, eh bien, il sera peiné, et moi aussi, je prends le risque de ne pas être considéré de manière heureuse par la personne, et peut-être d'être rejeté par elle. mais je choisis de porter ma croix, d'assumer en vérité le mal que j'ai fait. Voilà. Parce que je crois que la vérité de l'amour de Dieu pour moi est plus grand que l'amour que je peux espérer recevoir de la personne avec qui je suis en relation.
Oui, pour revenir à ce dont nous parlions, la foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal même. Quel est le moyen que nous avons de percevoir cela ? C'est-à-dire que le mal que Jésus a subi pendant sa passion, eh bien, nous manifeste l'amour infini que Jésus a eu pour nous. Lorsque nous supportons des choses difficiles, avec espérance, eh bien, nous manifestons notre foi à Dieu. C'est-à-dire que ce mal peut aussi être des épreuves qui nous aident à manifester où est réellement notre foi. Et si nous avons véritablement si notre foi est complètement ancrée en Dieu ou si elle a vraiment besoin d'être bien affermie.
Alors, pour terminer, on va voir aussi, donc il a créé quoi ? Il a créé le ciel et la terre. Donc le ciel et la terre signifient tout ce qui existe. Et c'est pas juste la terre au sens de la matière première qu'est la terre, non. Vous voyez, ou le ciel, vous voyez, c'est une expression, voilà, qui manifeste tout ce qui existe, la création tout entière. C'est-à-dire aussi le lien à l'intérieur de la création qui unit et qui distingue le ciel et la terre. Vous voyez. Donc, pour le dire autrement, il n'y a rien que Dieu n'aurait pas créé lui-même. Vous voyez. Il n'y aura pas des choses qui auraient échappé à la création. Hein. Et la terre est le monde des hommes. Elle décrit aussi, c'est une expression qui veut signifier le monde des hommes, notre monde. Hein. Et le ciel va désigner davantage, évidemment, le firmament, mais aussi le lieu propre de Dieu. Sans que ce soit forcément un espace, parce qu'on sait bien qu'il n'est pas situé dans les nuages, le bon Dieu. Vous voyez, c'est une expression qui manifeste ses hauteurs. Vous voyez, et la dimension divine. Le ciel est donc aussi la gloire qui nous attend, la gloire que Dieu vit lui-même. Hein, le terme qu'on utilise, même s'il est un peu technique, je vais quand même le donner, la gloire eschatologique. Hein. L'eschatologie, c'est ce qui touche aux fins dernières, voyez, à la fin des temps, et donc à la venue en gloire de Jésus le Christ, pour rassembler toute l'humanité dans sa gloire, pour l'éternité. Et donc, du coup, le ciel, de manière ultime, ça va être aussi, non pas seulement ce qui concerne Dieu, mais ce qui aussi concerne chacun et chacune d'entre nous, au-delà de la mort, puisque Dieu veut nous partager sa gloire. Hein? Et c'est aussi, bien sûr, ce qui touche à la réalité des anges. Hein? Sachant que les anges, les bons anges, s'entend, bien sûr, sont déjà dans la gloire, ils partagent déjà la joie de la gloire de Dieu.
Et ils glorifient Dieu.
Voilà, ils louent Dieu, ils le voient face à face, jour et nuit. Voilà. Alors creusons un tout petit peu du coup ce mystère des anges. Les anges sont des créatures spirituelles, n'ont pas de réalité corporelle. C'est pas parce qu'on les représente dans toute la tradition picturale, et pour essayer de découvrir la réalité de ce qu'ils sont, on est obligé de nous passer par quelque chose de visible. Donc on les manifeste par des êtres un peu asexués, plus ou moins, et puis avec des ailes, parce que de toute manière Dieu les décrit lui-même un peu comme ça dans différents textes de sa parole. Mais ce sont donc des êtres non corporels, qui ne sont que spirituels, comme Dieu qui est esprit. Hein. Et ils glorifient donc Dieu sans cesse, on l'a dit, et aussi ils sont des serviteurs. Que servent-ils ? Ils servent le projet d'amour de Dieu, ce qu'on appelle aussi le dessein, D-E-2-S-E-I-N, vous voyez, voilà. Le dessein de salut de Dieu. Voilà. Ils sont au service du salut de Dieu. Voilà. Dieu nous sauve par le service des anges, hein, sachant qu'on a chacune un ange qui nous garde de manière personnelle, en dehors aussi des myriades d'anges qui sont aussi à notre service. Hein? Et donc, les anges, dit saint Thomas d'Aquin, les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. Hein? Les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. Hein? Et ils entourent aussi Jésus le Christ, leur Seigneur. Ils le servent particulièrement dans l'accomplissement, de son œuvre de salut envers nous. J'avais dit, mais je le redis de manière précise. Voyez, et l'Église du coup vénère les anges qui l'aident dans son pèlerinage terrestre.
Juste dire une toute petite chose, c'est-à-dire que Jésus, après les trois tentations, hein, où il est dit, les anges le servaient. Oui. Hein, c'est-à-dire que les anges n'ont pas évité à Jésus qu'il soit tenté, hein, mais en même temps, une fois que Jésus a passé cette épreuve, en quelque sorte, hein, puisque c'est une épreuve, la tentation, hein, eh bien les anges sont venus le servir. Et c'est dit vraiment dans l'Évangile. Hein, parce qu'il y a une tendance aujourd'hui où les anges sont à la mode.
Oui, mais ce que veut dire Marc-Christine, c'est qu'ils sont à la mode, pas dans un bon sens.
Pas dans un bon sens, c'est pour ça.
Dans un sens, encore une fois, un peu magique. Voilà. Donc, il y a une présence des anges, mais les anges ne sont pas au-dessus de Dieu, ils sont au service de Dieu. Ou Dieu, pour le dire autrement, agit par le service des anges. Voyez ?
Pour notre salut.
Voilà, pour notre salut. Et Marie-Christine qui parlait de Jésus, au début de sa vie publique avec ses tentations, il y a aussi dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus est tenté à Gethsémani, dans le jardin, juste avant là où il entre dans sa passion, après avoir prié, son Père, avec force, avec courage, alors qu'il entre dans l'épreuve et dans la douleur très grande de sa passion à ce moment-là déjà, eh bien, un ange est venu lui apporter la consolation de Dieu, son Père. Il a été soutenu et consolé par la présence d'un ange. Voilà. Et donc, la plupart des êtres humains, de manière ordinaire, n'ont pas d'expérience sensible de la présence des anges. Et cela n'a rien de grave. Il n'est pas nécessaire de ressentir la présence d'un ange pour savoir que les anges de Dieu sont auprès de nous. Vous voyez, encore une fois, ce qui est essentiel dans la foi, c'est « je sais et je crois que ce que Dieu me dit est vrai et que la manière dont Dieu vient me consoler, c'est par la présence invisible mais réelle de ces anges et particulièrement de l'ange qui m'est confié, de celui qui me garde, mon ange qui vient. Voilà. Ou à qui je suis confié, en effet. Merci. Voilà. Voilà, donc du coup, l'Église vénère les anges, vous voyez, pour cette action auprès de Dieu et auprès de chacun de nous. Dieu a voulu donc la diversité de ses créatures et leur bonté propre, vous voyez, leur interdépendance aussi, hein, nous l'avons exprimé, et puis leur ordre. Hein. Encore une fois, les anges ne sont pas au-dessus de Dieu. Dieu est vraiment celui qui est au-dessus de tout. Les anges sont au-dessus de nous parce qu'ils sont déjà dans cette gloire, et puis en même temps, les anges, dans une autre part, sont moindres que les hommes parce qu'ils ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, d'ailleurs, nous le savons et nous en reparlerons plus longuement. On va pas creuser la question maintenant, mais les anges mauvais, ceux avec Lucifer qui se sont rebellés contre Dieu, eh bien c'est en raison précisément du fait qu'ils ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et ils ont vécu cela comme une jalousie, la jalousie de certains anges et qui les a conduits à se rebeller contre Dieu et surtout contre l'œuvre de Dieu que nous sommes.
Alors, les mauvais anges, ce sont ceux qui ont refusé de servir, oui. Alors que les anges, ceux qui sont bons, eh bien, ce sont ceux qui servent. Ils sont au service de Dieu, comme nous, nous sommes toujours appelés à être au service de Dieu et des autres.
Pour résumer et terminer notre propos, voyez, il nous appartient de respecter les lois inscrites dans la création par Dieu. Il y a des lois qui sont inscrites dans la création. On ne fait pas ce qu'on veut avec la création. Là, ici, c'est l'occasion peut-être évidemment de prier pour que tous ceux qui œuvrent à la perfection de la création, notamment les scientifiques à différents niveaux, qu'ils vivent leur mission dans un esprit de service et non pas comme des apprentis sorciers et au détriment de l'équilibre des lois de propres de la création que Dieu a voulu.
C'est une sainte écologie.
Voilà, parce que ce que Dieu a créé peut être aussi abîmé. Voyez, la création, elle a une certaine neutralité, elle peut être conduite vers le bien, vers un accomplissement bon, parce que le cœur de l'homme est bon, mais lorsque le cœur de l'homme est trop orgueilleux, il peut conduire l'homme à travailler, à modifier la création à des fins qui sont mauvaises. Voilà. Et donc, il nous appartient de respecter les lois propres à la création, voilà, pour la faire servir nous-mêmes autant que tout ce qui est autour de nous dans la création à la gloire de Dieu. Hein, voyez. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici maintenant pour ce premier enseignement.
Et on se retrouve à 15h.
Voilà.